Biotine, l'émission de vulgarisation scientifique de Graphite.
Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission de Biotine en direct sur l'antenne de Graphite 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet en direct ou en différé. Vous avez la possibilité de pouvoir récupérer tous les podcasts de toutes les émissions de Graphite, bien sûr, sur le site internet. La rediffusion de cette émission le mardi matin à 10h et puis bien sûr toute l'actualité de votre radio Graphite sur les réseaux sociaux, bien évidemment, pour vous tenir informé. Aujourd'hui, le 30 mai, c'est la journée mondiale de la sclérose en plaques, ce qui permet justement d'avoir des actions de sensibilisation et d'information sur cette maladie. Au niveau de l'éphéméride, 30 mai 1898, William Ramsay et Maurice Williams Travers découvrent le krypton. À la fin du 19e siècle, on découvre le krypton quand même. En 1971, le lancement de la sonde orbitale Mariner 9, c'est le premier vaisseau à étudier Mars depuis son orbite. 1971, on était déjà dans l'idée de s'intéresser à Mars quand même. Il y a plus de 50 ans, 55 ans qu'on s'intéresse à Mars. Et c'est quand même assez intéressant parce que Mars, c'est quand même l'actualité de cette décennie. Mais finalement, c'est pas si nouveau que ça d'en savoir un petit peu plus sur Mars. En 1975, une convention portant la création d'une agence spatiale européenne est conclue à Paris. L'ESA, l'agence spatiale européenne, ben voilà, cette convention de création est donc signée, rédigée, conclue le 30 mai 1975. Enfin, plus récemment, en 2020, il y a 6 ans, le lancement du vaisseau Crew Dragon de SpaceX. Il réalise son premier vol habité par une fusée Falcon 9 pour la NASA depuis les États-Unis à destination de la Station Spatiale Internationale après un report de 2 jours en raison de conditions météo défavorables. C'est vrai que le 30 mai 2020, c'était un jour important pour SpaceX, bien évidemment. Naissance, le 30 mai 1718, on va partir au 18e siècle, naissance de Jacob Schaffer, enseignant, botaniste, mycologue, entomologiste, ornithologue et inventeur allemand. À l'époque, on touchait vraiment un peu à tout. Il a fait des expériences sur l'électricité, sur les couleurs, sur l'optique. Il reste d'ailleurs célèbre pour sa fabrication de prismes et de lentilles, Schaffer. Il invente la première machine à laver, ainsi que d'autres appareils comme une scie, il invente des fours également. Enfin, il a inventé plein de choses, ce Jacob Schaffer. L'industrie papetière l'intéresse aussi. Il expérimente notamment la fabrication de papier à partir des végétaux variés comme le peuplier, la mousse, le houblon. Alors, ces tentatives, elles ne vont pas être utilisées par les fabricants de pâte à papier, mais en tout cas, il fait plein de tests, plein d'expériences. Il a touché à tout. Jacob Schaffer, qui est donc né un 30 mai 1718. Décès le 30 mai 1926 de Vladimir Andreevitch Stekhov, mathématicien russe, mécanicien et physicien. La principale contribution scientifique de Stekhov, c'est dans le domaine des ensembles de fonctions orthogonales. En géométrie classique, l'orthogonalité, c'est une propriété liée à l'existence d'un angle droit. Donc vraiment, l'angle droit, on voit ce que c'est. On ne va aller pas plus loin dans les explications de l'orthogonalité. En tout cas, ce mathématicien russe a vraiment apporté beaucoup de choses. Il est donc décédé le 30 mai 1926. Il était également mécanicien et physicien. C'est aussi toujours une époque où on touchait quand même à pas mal de choses, bien évidemment. Je voulais commencer cette émission par un article, alors qui n'est pas récent, il y a déjà 2-3 semaines que j'ai sous le coude et je n'ai jamais encore eu le temps de l'évoquer, alors que c'est vraiment totalement fascinant. Un sujet qui a de quoi faire fantasmer, parce que ça a été nourri par le cinéma ou la littérature, c'est ce qu'on appelle la cryonie. L'idée, c'est de savoir comment on peut conserver un corps humain à très basse température pour pouvoir le ranimer dans le futur. Il y a plusieurs entreprises qui en font d'ailleurs leur fonds de commerce, notamment aux États-Unis et en Russie, en donnant bien sûr l'espoir d'une résurrection future. Pourtant, la science ne semble pas avancer aussi vite que les fantasmes, même si ce que vient de réaliser une équipe de l'université de Nuremberg marque une étape importante et cruciale dans ce processus. Dans une étude donc qui a été publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Science, les chercheurs ont démontré que les tissus cérébraux d'une souris qui avait été congelée à très basse température, ces tissus peuvent retrouver une activité fonctionnelle après décongélation. C'est une information totalement extraordinaire. En fait, la cryopréservation, elle est utilisée depuis des décennies pour les cellules reproductrices ou pour certains tissus. Le cerveau, lui, résistait encore. Sa complexité extrême en raison de milliards de neurones interconnectés par des synapses fragiles, eh bien, ça fait à l'organe qui est particulièrement vulnérable. Et donc, préserver des cellules isolées, c'est une chose. Maintenir intact un réseau global, complexe, capable de traiter l'information, c'en est une autre. Et pour parvenir à leur fin, les chercheurs ont plongé des tranches de cerveau issues de l'hippocampe de souris dans de l'azote liquide. Alors, l'azote liquide, c'est moins 196 degrés Celsius, donc c'est quand même très très froid. Et ils les ont conservés dans cet état vitreux grâce à une technique particulière, c'est-à-dire contrairement à la congélation classique qui provoque la formation de cristaux de glace qui vont détruire, eh bien cette technique, elle va transformer l'eau qui est contenue dans les cellules en un état amorphe comparable à du verre. Et ce changement d'état, ça va éviter les dommages mécaniques qui jusqu'à présent rendaient toute tentative de préservation du cerveau fonctionnel vouée à l'échec. C'est-à-dire que quand on fait une congélation, j'allais dire classique, l'eau va augmenter et donc du coup, ça détruisait tout. On voit très bien dans notre congélateur que, ou même quand vous mettez une bouteille d'eau, quand vous la mettez au congèle, elle augmente. Donc évidemment, l'eau qui est dans le cerveau, si vous mettez le cerveau au congélateur, je caricature, mais c'est un peu l'idée, bien l'eau va augmenter, ça va détruire tout le cerveau. Là, c'est une technologie totalement différente qui fait qu'on va refroidir, bien sûr, mais l'eau va se comporter comme du verre, c'est-à-dire que ça ne va pas augmenter, mais ça va se vitrifier, justement, d'où la notion de verre. Et ce changement d'état va pouvoir éviter tous les dommages mécaniques que l'on peut avoir. Nous avons cependant optimisé la composition des conservateurs et le procédé de refroidissement afin que le tissu nerveux reste intact. C'est ce que souligne Alexander German, qui est le principal auteur de cette étude. Donc, on a fait ensuite la décongélation et les neurones ont retrouvé leur capacité à transmettre des signaux électriques. Plus remarquable encore, les chercheurs ont observé une potentialisation à long terme, c'est-à-dire un mécanisme fondamental de la plasticité cérébrale qui est impliqué dans l'apprentissage et dans la mémoire. Autrement dit, ces tissus n'étaient pas seulement vivants, ils étaient capables de s'adapter. Et donc, selon Alexander German, après décongélation, des signaux électriques se sont reformés spontanément dans l'hippocampe et se sont propagés normalement à travers les réseaux de neurones. L'enthousiasme suscité par ces résultats ne doit cependant pas masquer leurs limites. Les expériences ont été menées sur des tranches de cerveau de quelques centaines de micromètres d'épaisseur, donc on n'est pas sur la notion d'un cerveau complet dans sa globalité. Il n'empêche que c'est quand même assez extraordinaire. La viabilité des tissus après la réactivation, elle reste limitée dans le temps et les résultats ne sont pas encore homogènes. Surtout, rien dans cette recherche ne permet d'affirmer qu'une mémoire individuelle, une identité ou une conscience pourrait être préservée puis restaurée. On n'en est pas encore là. En tout cas, la distance entre ces fragments neuronaux et un cerveau humain entier, la distance, elle est vertigineuse, tant sur le plan de la taille que l'organisation, bien évidemment. Cela s'ajoute des obstacles techniques majeurs. La toxicité de ce qu'on a utilisé comme produit à forte dose, la difficulté de les diffuser de façon uniforme dans les tissus volumineux ou encore le contrôle des vitesses de refroidissement et de réchauffement par la suite. Si les perspectives restent hypothétiques, les implications médicales de cette avancée sont, elles, bien réelles. La conservation d'organes pour la transplantation constitue l'un des enjeux les plus immédiats. Aujourd'hui, les délais entre prélèvement et greffe sont extrêmement courts, ce qui limite les possibilités de compatibilité entre donneur et receveur. Et donc, cette technique de cryopréservation fonctionnelle pourrait transformer cette logique logistique en profondeur, permettant la création de véritables banques d'organes. En neurosciences, la possibilité de conserver des tissus cérébraux fonctionnels ouvre également de nouvelles perspectives. Des échantillons prélevés lors d'interventions chirurgicales pourraient être étudiés sur de longues périodes, ce qui peut faciliter le développement de traitements pour des pathologies comme l'épilepsie ou les maladies neurodégénératives. La prochaine étape consistera à étendre ces résultats à des tissus plus épais, voire à des cerveaux entiers de petits mammifères. Et si ce cap était franchi, il marquerait bien sûr un changement d'échelle décisif. En tout cas, voilà, le fait que ces chercheurs ont pu faire redémarrer des tranches de cerveau de souris congelées, c'est assez vertigineux. J'ai un peu l'impression qu'on n'a pas nécessairement entendu parler de cette découverte dans les médias. J'ai pas vu beaucoup de choses. En tout cas, là, le site de Futura Science l'avait évoqué. Et c'est vrai que c'est une information qui date de 2-3 semaines, je crois. Et ça me semblait important de l'évoquer dans cette émission parce qu'on est quand même sur quelque chose d'assez fantastique, hein, quelque part, bien évidemment. Donc voilà, c'est ça, Biotine. Hein, tous les samedis, on s'arrête un petit peu sur l'actualité scientifique et on découvre des choses qui sont totalement fascinantes et qui posent questions ou qui ouvrent des perspectives parfois assez étonnantes, mais assez prometteuses, bien sûr. Cette annonce fait partie, justement, de quelque chose. Enfin, c'est Hibernatus, la première étape, on va dire, d'Hibernatus. À suivre, bien évidemment, dans les futures années, parce qu'on va quand même aller un petit peu plus loin dans ces recherches, bien sûr. Allez, on écoute un petit peu de musique aussi. Ça va être le programme que je vous propose pendant cette émission de la science et de la musique sur l'antenne de Graphite.
De ta mère, de tes fûts, bah, y'en a plein le cul, de ta mère, de tes fûts, bah,
Waouh, ça s'appelle Barbitrick et le titre, non, le titre c'est Barbitrick et le nom du groupe c'est Brice et sa pute. C'est dit, c'est fait.
Jean-Noël Moreau, Biotine, sur Graphite.
Transition est difficile après. Faut assumer. Qu'est-ce que je vous dis, ça fait partie de la playlist. Hein, voilà. Et puis voilà. Alors, on va parler. Alors, je n'en sais rien. C'est pas évident quand même. Alors, on va parler de robotique. Depuis le mois de février, une information est passée relativement inaperçue, malgré son caractère proprement stupéfiant. Il y a une société allemande qui s'appelle Swarm Biotactics. Et cette société a annoncé travailler activement au développement d'insectes espions cybernétiques, des cafards vivants équipés de dispositifs technologiques miniaturisés guidés par intelligence artificielle. Ce procédé, qui est financé à hauteur de 13 millions d'euros, n'est plus un simple scénario de science-fiction. Il représente une nouvelle catégorie de robotique à mi-chemin entre le biologique et le numérique. Le principe repose sur une idée assez originale et audacieuse, exploiter les capacités naturelles du cafard pour en faire un outil de surveillance opérationnelle. Ces insectes, en fait, ils présentent des atouts qu'aucun drone ne peut reproduire à ce jour. Une agilité exceptionnelle dans des espaces confinés, une résistance aux conditions extrêmes, la chaleur, les radiations, le manque d'eau, une signature électronique quasi nulle, un coût de fabrication très bas comparé bien sûr aux robots classiques et une apparence naturelle permettant de passer inaperçu. Chaque insecte est équipé d'un minuscule sac à dos fixé sur son thorax et ce dispositif embarque des capteurs environnementaux, un module de stimulation neuronale et une interface de communication sécurisée. Et donc l'intelligence artificielle analyse les données en temps réel et peut guider l'insecte à distance ou le laisser agir de façon autonome. Le PDG de Swarm Biotactics, qui s'appelle Stéphane Willem, il décrit cette technologie comme, je cite, « biologiquement intégrée, évolutive et adaptée aux défis du XXIe siècle ». En tout cas, son entreprise se positionne à l'avant-garde d'une révolution dans laquelle le vivant devient une plateforme pour des systèmes intelligents. Ces robots particuliers, qu'on va appeler des bio-robots, ne se limitent pas aux opérations de renseignement militaire. Leur capacité d'infiltration pourrait transformer plusieurs domaines d'intervention d'urgence. Dans un bâtiment effondré après un séisme, par exemple, eh bien, on pourrait avoir un groupe de cafards qui pourrait localiser des survivants là où aucun secouriste ni robot ne peut accéder. Ces insectes seraient également capables de mesurer la qualité de l'air dans des structures instables, d'identifier des fuites de gaz toxiques, de cartographier des zones souterraines inexplorées et les algorithmes collectifs inspirés du comportement animal permettent justement à ce groupe de cafards d'opérer sans pilotage humain continu. L'année dernière, en juin 2025, cette société a levé 10 millions d'euros supplémentaires en financement d'amorçage, ce qui porte donc le total à 13 millions d'euros, comme on l'a dit. Ces fonds proviennent d'investisseurs européens, américains et australiens. Et c'est un peu le signe d'un intérêt international croissant pour ces technologies hybrides. L'objectif annoncé est de passer rapidement de la phase de recherche à des déploiements opérationnels, notamment auprès d'agences de sécurité et aussi auprès de forces armées, bien sûr. Alors la question éthique, elle s'impose pourtant avec force, et c'est très souvent le cas dans cette émission. On ne parle pas nécessairement d'éthique. Or, c'est toujours un sujet sous-jacent. Manipuler le système nerveux d'un insecte vivant à des fins stratégiques soulève des interrogations profondes sur les limites de l'exploitation du vivant. Jusqu'où la technologie peut-elle s'approprier le biologique sans franchir une ligne morale ? Alors, aucune réponse claire n'existe aujourd'hui. C'est normal, on ne se pose pas la question. Donc, si on ne pose pas la question, on n'aura pas de réponse. En tout cas, les régulateurs n'ont pas encore encadré ce type de dispositif hybride. Et donc, ces cafards, ces cafards robotiques, on ne sait pas comment les appeler en fait, ils incarnent une rupture technologique majeure. Là où les machines butent sur leurs limites physiques, le vivant, lui, trouve toujours un passage. Et donc, cette robotique bio-hybride, hein, c'est cafard contrôlé par intelligence artificielle pour explorer là où les machines échouent, c'est aussi une information assez étonnante. Donc voilà, il y avait quand même deux informations aujourd'hui que je trouvais intéressant à mettre en avant. C'est ces morceaux de cerveau de souris congelés qu'on a pu décongeler et après on retrouve une activité cérébrale. Et donc ces cafards qu'on contrôle par intelligence artificielle et qui vont pouvoir aller là où on ne peut pas aller normalement. Et donc des applications qui sont... parfois, évidemment, utile. C'est vrai que dans le cas d'un effondrement d'un bâtiment, envoyer des cafards pour essayer d'identifier les zones où il y a des personnes encore vivantes, c'est bien sûr intéressant. Après, il y a d'autres fins, par exemple des fins militaires, qui peuvent poser question, bien évidemment. C'est des vraies questions que l'on se pose avec ce genre de sujet. Et je trouve toujours très troublant qu'on n'aille pas plus loin dans le questionnement, bien évidemment, parce que... Enfin, voilà, c'est... On n'est pas là nécessairement pour avancer plus sur ces sujets-là, parce que c'est une prise de conscience assez générale qu'il faut prendre, mais c'est assez, c'est assez troublant, bien évidemment. Dans les articles de Science et Vie ou dans les articles de Science et Avenir, vous avez parfois des brèves qui sont assez intéressantes. Donc je vous incite à consulter régulièrement et à feuilleter ces revues de vulgarisation scientifique qui sont bien faites parce qu'elles traitent de sujets de fond avec une infographie qui est vraiment adaptée. Et puis il y a des fois des petites brèves qui sont assez intéressantes. Donc là, ça va être donc dans Science et Avenir, je crois, si je ne dis pas de bêtises, où on parle dans ces sciences Science et Vie, excusez-moi, Science et Vie qui évoque cette bactérie qui est assez intéressante. En fait, il y a une équipe de l'Institut supérieur japonais des sciences et technologies qui ont isolé 45 souches bactériennes contenues dans les intestins de deux amphibiens, et donc de grenouilles, et d'un reptile japonais. Ils ont isolé un petit peu ces souches de bactéries et ils ont injecté certaines souches à des souris souffrant du cancer du côlon. Et la surprise, l'une de ces souches bactériennes extraites d'une grenouille particulière qui est la rainette arboricole japonaise. On ne la connaît pas, la rainette arboricole japonaise. Eh bien, là, elle est très utile parce qu'on s'est rendu compte de la destruction totale en quelques jours du cancer du côlon de la souris. Alors, si vous m'avez bien suivi, on a récupéré des bactéries dans une grenouille, on les a mises dans une souris qui souffrait de cancer du côlon et on s'est rendu compte de la destruction totale en quelques jours. Il s'agit d'une bactérie qui était déjà connue, mais c'est la première fois que son activité antitumorale est reportée. C'est ce qu'indique Eijiro Miyako, qui est donc membre responsable de cette équipe de cet Institut supérieur japonais des sciences et technologies. Et pour confirmer leurs résultats, les chercheurs ont comparé l'injection de cette bactérie à deux traitements conventionnels. Et ils ont montré que l'action de la bactérie était beaucoup plus efficace. Comment agit-elle? C'est toute la question. Eh bien, elle a des effets cytotoxiques directs sur les cellules tumorales. Ça veut dire qu'elle agit directement sur les cellules tumorales pour les tuer, entre guillemets. Elle agit directement sur les cellules, les mauvaises cellules. Mais elle active aussi le système immunitaire. Et donc, s'il est trop tôt pour envisager des essais cliniques, le chercheur prévoit de tester l'efficacité de cette bactérie sur d'autres types de tumeurs. Donc voilà, cette bactérie de grenouille qui a de puissants effets anti-cancer, c'est assez étonnant. On parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure. Là, vous avez encore une autre application d'intelligence artificielle qui, cette fois, peut être intéressante, c'est de transcrire les manuscrits médiévaux afin de les étudier, c'est-à-dire en faire une version avec nos caractères lisibles par tous. C'est une équipe franco-suisse qui a recouru à l'intelligence artificielle pour faire cela et avec succès, parce qu'à la fin de l'année dernière et après seulement 4 mois d'activité, l'algorithme a permis d'informatiser plus de 30 000 documents qui sont aujourd'hui regroupés au sein d'un corpus qui s'appelle Coma, CO2MA, si vous voulez voir un petit peu ce qu'il y a sur ces manuscrits, ça peut être intéressant. Alors, bien sûr, les transcriptions sont automatiques et ne sont pas exemptes d'erreurs. C'est ce que met en garde Ariane Page, qui est chercheuse au CNRS, qui a travaillé sur ce projet. Ce qui n'empêche pas les spécialistes de s'emparer de ce corpus, justement. Il facilite l'accès au texte et peut être utilisé, par exemple, pour des recherches de mots dans un vaste recueil. Alors, pour l'heure, ce corpus commun regroupe des textes en latin ou en français mais les chercheurs espèrent élargir ses horizons linguistiques. Effectivement, c'est quand même assez intéressant, assez fascinant bien sûr. Allez, on écoute encore un autre titre sur l'antenne de Graphite et on va continuer comme ça à feuilleter la revue de presse d'une actualité scientifique fascinante. Naota, ok, c'était Dormente sur l'antenne de Graphite.
Biotine, Jean-Noël Moreau.
Allez, encore d'autres articles qui sont assez troublants dans cette émission, notamment pour la première fois, un virus marin a été transmis à l'humain, provoquant une maladie grave. Ces dernières années, le nombre de cas d'uvéite antérieure virale avec hypertension oculaire persistante n'a cessé d'augmenter en Chine sans que l'on sache pourquoi. Une étude publiée dans la revue Nature Microbiology vient de percer le mystère. C'est un virus marin qui serait à l'origine de cette épidémie. Ce virus, baptisé Corvette Mortality Nodavirus, le CMNV, infecte normalement les animaux marins. Il est notamment responsable de pertes massives dans les élevages de crevettes et de poissons. Le CMNV aurait franchi la barrière des espèces qu'il contamine habituellement pour infecter l'être humain. C'est ce qu'alertent des chercheurs. chercheurs. Chez l'homme, il provoque une pression oculaire extrêmement élevée, une inflammation. Ce sont des symptômes caractéristiques de ce qu'on appelle l'uvéite antérieure virale avec hypertension oculaire. Les chercheurs ont d'abord remarqué que les personnes atteintes de cette maladie oculaire présentaient systématiquement des résultats négatifs aux tests de dépistage des virus oculaires courants, tels que l'herpès ou le zona. Et de précédentes recherches avaient par ailleurs identifié des particules virales inconnues dans les tissus oculaires des patients. Et ces particules virales avaient une forme et une taille similaires à celle du CMNV. C'est cet élément qui a donc mis les chercheurs sur la piste de ce virus. Et pour confirmer leurs soupçons, les scientifiques chinois ont recruté 70 personnes diagnostiquées avec cette affection entre janvier 2022 et avril 2025. Ils ont examiné au microscope des tissus prélevés lors d'interventions chirurgicales oculaires et ils ont donc observé des particules virales similaires au CMNV. En revanche, aucune particule ressemblant à ce CMNV n'a été trouvée dans le groupe témoin des volontaires qui étaient sains. Donc ceux qui avaient bien cette problématique oculaire avaient bien ce virus. Pour confirmer l'identité du virus en cause, les chercheurs ont utilisé un anticorps spécifique marqué à l'or qui va se lier uniquement à ce virus CMNV. Et donc, après avoir séquencé son matériel génétique, ils ont constaté que le virus analysé chez les malades correspondait à presque 100% avec la version trouvée chez les animaux aquatiques. Cette étude révèle qu'un virus d'animal aquatique est associé à une maladie humaine émergente, c'est ce qu'ont indiqué les auteurs de ces travaux. Pour mieux comprendre comment ce virus a pu passer des animaux marins à l'humain, eh bien les chercheurs ont interrogé les patients sur leurs habitudes de vie et ils ont constaté que près des trois quarts d'entre eux manipulaient des fruits de mer crus sans gants et consommaient des animaux aquatiques crus. La manipulation fréquente et non protégée d'animaux aquatiques et la consommation d'animaux aquatiques crus étaient des expositions fréquemment rapportées. C'est ce qu'a précisé donc l'équipe de scientifiques. Pour confirmer que le virus était bien la cause de leur maladie oculaire, les chercheurs ont mis en culture le virus et ont infecté des souris avec. Et bien les souris ont développé les mêmes symptômes que ceux observés chez les patients humains, savoir une inflammation au niveau des yeux et une élévation de la pression intraoculaire. L'étude s'est intéressée au nombre d'espèces possiblement contaminées par le CMNV et à une éventuelle propagation à d'autres régions du monde que la Chine. Il s'avère que le virus a été détecté chez 49 espèces, dont des crabes et des mollusques présents non seulement en Asie, mais en Afrique, en Europe, en Antarctique et en Amérique, c'est-à-dire partout, en clair. Donc voilà, pour la première fois, un virus marin a été transmis à l'humain, ce qui provoque une maladie grave. Et donc, c'est... Voilà, c'est encore sur Biotine, sur Antenne de Graphite, qu'on aura évoqué cela pour la première fois, parce qu'on ne sait pas du tout ce que ça va donner, en clair. C'est assez inquiétant, bien évidemment. Ça pose question, bien sûr, bien sûr. Autre chose qui ne va pas non plus nous rassurer, c'est la coloration pour cheveux. Hein. Soit pour masquer des cheveux blancs ou simplement pour changer de teinte. Il y a une large majorité de femmes et de plus en plus d'hommes qui ont régulièrement recours aux colorations à domicile ou en salon. Un geste perçu comme sans risque, voire anodin. Cependant, en avril dernier, l'ANSES a lancé une alerte après avoir recensé 124 cas d'effets indésirables liés aux teintures capillaires. Des démangeaisons, des brûlures, des œdèmes, parfois jusqu'à des réactions graves. Alors, que contiennent réellement ces produits et pourquoi certaines molécules posent-elles problème ? Pour comprendre ces risques, il faut d'abord regarder ce que contiennent réellement les teintures. Les colorations dites permanentes, qui représentent près de 80% du marché européen, reposent sur un mécanisme chimique précis. Ouvrir la fibre capillaire pour y déposer des pigments qui vont rester dans le temps. Et pour y parvenir, elles utilisent des substances comme l'ammoniac ou le peroxyde d'hydrogène. Ce mélange permet d'obtenir une couleur stable dans le temps, mais il peut aussi fragiliser le cuir chevelu et provoquer des réactions. Même les formules présentées comme plus douces ne sont pas totalement inoffensives. Les teintures semi-permanentes ou temporaires fonctionnent différemment, mais elles contiennent elles aussi des composants susceptibles d'irriter ou de sensibiliser la peau. Certaines molécules bien identifiées attirent aujourd'hui l'attention des autorités sanitaires. C'est notamment le cas d'une molécule qui est le paraphénylène diamine, plus connu sous le nom de PPD, fréquemment utilisé dans les colorations. Et on trouve également des dérivés chimiques qui sont présentes dans des produits décolorants. Ces substances ne sont pas interdites, mais elles peuvent déclencher des réactions allergiques chez certaines personnes. Il y a une publication de la revue Asthma Allergy qui rappelle que justement cette molécule, la PPD, fait partie des allergènes de contact les plus puissants en cosmétique. Les cas analysés par l'ANSES entre 2019 et 2025 montrent que les effets indésirables ne se limitent pas à de simples irritations passagères. Si certains utilisateurs évoquent des démangeaisons ou des sensations de brûlure, d'autres décrivent des manifestations bien plus inquiétantes comme des gonflements du visage ou des difficultés respiratoires. Ce qui rend ces situations difficiles à anticiper, c'est qu'elles peuvent apparaître même chez des personnes habituées aux teintures. On peut très bien utiliser un produit pendant des années, puis développer soudainement une allergie. Le corps devient progressivement sensible à certaines substances sans que cela soit visible au départ. Faute de tests allergologiques suffisants, il reste encore difficile d'identifier précisément les substances responsables dans chaque cas. Et cette incertitude renforce la nécessité de rester vigilant. Donc face à ces constats, les autorités sanitaires insistent sur l'importance de ne pas banaliser l'usage des colorations pour cheveux. Un simple test cutané dans le pli du coude, par exemple, est recommandé avant chaque application pour détecter une réaction débutante. Il faut donc respecter les consignes d'utilisation, éviter toute réapplication en cas d'antécédent allergique, conserver les informations du produit, tout ça ce sont des réflexes essentiels. En cas de réaction importante, une prise en charge rapide est indispensable. Alors, sans tomber bien sûr dans l'inquiétude excessive, une chose est claire, mieux comprendre ce que l'on applique sur ses cheveux reste aujourd'hui la meilleure façon de limiter les risques, bien sûr. Donc faites attention si vous avez la pratique de la coloration pour cheveux. Eh bien voilà cet article de Futura Science qui vous explique ce qu'en contiennent vraiment les teintures capillaires et pourquoi cela inquiète les experts, bien sûr. Allez, on va écouter un peu de musique, hein, parce que ça devient plombant cette émission. J'en suis désolé. Prince de la Vigne, c'est Gérard Bast sur l'antenne de Graphite.